Phil PM. Le monde. Loïc Tassé.
Il est 13h31 minutes. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour.
Parlons de nouvelles internationales. La grosse nouvelle. Aujourd'hui, évidemment, c'est la Cour suprême des États-Unis qui endosse la politique de Trump sur les voyageurs de différents pays. Il y a 5 pays qui sont concernés.
Oui, c'est ça. En fait, c'est à 5-4. Et on se souviendra que l'administration Trump avait interdit aux voyageurs en provenance de 5 pays, de pays musulmans, de se rendre aux États-Unis parce que, disait-il, ce sont des pays où il y a beaucoup de terroristes musulmans. Et c'est vrai, c'est pas faux.
On parle du Yémen, entre autres, la Syrie, l'Iran.
C'est ça, un certain nombre de pays comme ça. Alors, ce qui est important, c'est que les juges ont décidé que cette politique ne violait ni les lois sur l'immigration, ni le premier amendement de la Constitution qui interdit de favoriser une religion au détriment d'une autre. Et donc, pour eux, l'argument de la sécurité est suffisant. On peut invoquer cet argument-là. Et c'est un argument qui est plus fort, finalement, que tout le reste. Et je dois te dire que, tu sais, si tu peux faire la preuve qu'il y a un problème de sécurité, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de droits qui courbent les chines. Hein. Si la sécurité de l'État est mise en cause, c'est sûr que ça va dans cette direction-là. Et c'est pas non plus contre toutes les... Je veux dire, c'est pas contre l'islam en général. C'est contre 5 pays où il y a des terroristes. Le problème, c'est que, tu vois, Trump avait dit pendant la campagne qu'il allait bannir complètement l'entrée aux musulmans aux États-Unis. Et c'est pas ça qu'on a. Mais s'il avait fait ça, là, sur cette base-là, probablement que la Cour suprême aurait dit ça, c'est pas possible. C'est
parce que là, on aurait basé exclusivement sur l'aspect religieux.
Exactement.
Alors que là, on y est allé de façon détournée pour dire...
Détournée. On a dit, écoutez, il y a 5 pays qui ça donne à être des pays musulmans, en fait, qui sont des pays où il y a beaucoup de terrorisme, tu sais, il y a du djihadisme. Et c'est difficile de dire le contraire. Oui, il y a du terrorisme, oui, il y a du djihadisme, et oui, c'est vrai, ça fait peser une contrainte sur les États-Unis. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent la gérer? Est-ce que c'est la meilleure politique? Ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, la Cour suprême a aussi dit qu'elle ne jugeait pas du bien fondé de la politique. Elle a simplement dit, c'est constitutionnel.
Et qu'est-ce que ça change pour les gens qui sont déjà aux États-Unis, par exemple?
Ça change rien du tout.
Ils sont entrés, eux autres peuvent...
Ils sont entrés, ils sont déjà là. Sauf qu'il y a tout un climat aux États-Unis qui se détériore de jour en jour. Il y a des gens qui, parce que Trump est très, très violent dans ses propos, se sentent aussi autorisés à avoir des comportements et des propos extrêmement violents. Et ça, on le voit avec l'apparition de graffitis anti-religieux un peu partout à travers les États-Unis, c'est-à-dire contre les Juifs, contre les musulmans, ce genre de choses, et avec des comportements qui sont de plus en plus excessifs, si tu veux, de gens qui se permettent d'avoir ce genre de comportement. Ça, c'est dangereux parce que ça diffuse la haine dans la société et tu peux pas... Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça.
Politiquement, pour Trump, c'est une grande victoire pour lui, là.
Oui, c'est une victoire, c'est incontestable. Et même, je pense, si tu veux, je ne pense pas que ceux qui croyaient que la Cour suprême dirait non. Tu me diras, remarque, c'était à 4-5, mais avec les juges conservateurs, c'était assez évident que la Cour suprême allait dire que c'était constitutionnel pour moi.
Bon, parlons du Brexit, la loi sur le Brexit qui est finalement promulguée, c'est fait là maintenant. Là.
Oui, c'est une loi, on se souvient, le Brexit, ça signifie que l'Angleterre sort de l'Union européenne. La loi a été présentée en juillet 2017, après le référendum où les Anglais avaient majoritairement décidé de sortir de l'Union européenne. La sortie officielle donc va avoir lieu le 29 mars. 2019, pardon, à 23 heures. Alors, le Parlement...
Pourquoi 23 heures? Pourquoi minuit?
Je ne sais pas. Je dis, c'est amusant, ça, 23 heures. Oui. Bon,
il doit y avoir une question de décalage horaire, je ne sais pas trop.
Tu sais, puis pourquoi pas le premier, en tout cas. Bref, tu sais, pourquoi pas le 30, tant qu'à y être aussi. Mais bon, c'est ça qui a été décidé. Alors, le Parlement va quand même doit voter en faveur de l'accord final qui doit être conclu avec l'Union européenne. Donc, ce n'est pas encore fait. Mais d'après tous les commentateurs, les analystes, il n'y a pratiquement aucune chance de retour en arrière. Et il faut savoir que ce Brexit, en ce moment, exacerbe toutes les tensions dans l'Union européenne. Tu sais, si on se souvient, des raisons pour lesquelles les Anglais ont décidé de sortir, en fait, il y a deux raisons essentielles. D'abord, les Britanniques ne voulaient pas que les Européens, l'Union européenne, ouais. décide à leur place pour toutes sortes de politiques. Et en ouais. effet, l'Union européenne prend de plus en plus de place dans la réglementation. Et puis aussi, il y a un problème avec le contrôle de l'immigration.
Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Et ça avait été un des éléments, justement, qui avait fait peser la
balance. Et les Anglais veulent avoir le contrôle ouais. de leur immigration. Et on parle autant d'immigration qui vient de l'intérieur de l'Europe ouais. que d'immigration qui vient de l'extérieur de l'Europe. Et moi, je te dirais, en général, quand je regarde ce qui se passe en Europe, tu sais, je trouve que tout ce processus d'intégration de l'Union européenne est très, très rapide. C'est des choses qui se font sur des siècles, littéralement. Mm-hmm. Tu sais, ça fait 70 ans à peu près que l'Union européenne est née. Puis tranquillement, on avance, on intègre, etc. Mais malheureusement, dans les années 90, on a voulu donner un grand coup d'accélérateur. Et je ne pense pas, moi, que les populations européennes étaient prêtes à ça. Mmh. Et de toute façon, je ne pense pas non plus que l'Union européenne aurait dû être élargie à 28 pays comme elle l'a été maintenant. D'ailleurs, on voit tous les problèmes qu'il y a avec des pays qui se sont rattachés plus tard à l'Union européenne. C'est un processus lent ouais. qui se fait sur vraiment un très, très grand nombre d'années. Alors maintenant, on est obligé de gérer ça en Europe. Et il y a un danger d'éclatement de l'Union européenne, ou en tout cas d'effritement de l'Union européenne avec ce qui se passe, avec l'immigration, avec les problèmes économiques, etc. On verra bien comment ils vont s'en sortir.
Bon, et Erdogan, en Turquie, remporte les élections, finalement?
Oui, c'était assez attendu hein, ouais. qu'il remporte les élections. Ce qu'on se demandait, c'est si... Parce qu'il y avait des présidentielles et des législatives. Alors bon, les législatives, on se disait, c'est assez entendu que c'est son parti qui va rentrer. Peut-être minoritaire, mais il y avait très peu de chances que ça se produise. Et on se disait peut-être qu'il va avoir besoin d'un deuxième tour au présidentiel. Pas de deuxième tour. En fait, même si son opposant principal, Muharrem Inç, a fait vraiment très, très bonne figure, il a tenu des rassemblements de ouais. plus d'un million de personnes dans les jours qui précédaient l'élection. Et c'est pour ça que les gens se posaient des questions. Ça n'a pas été suffisant. Je te donne les résultats. Et le taux de participation était très élevé, de 88%. Erdogan a remporté la présidence avec 52,5% des voix. Et Inç a eu 31% des voix. Donc, il y a vraiment un écart mmh. énorme.
Mais on n'avait pas parlé de fraude à un moment donné, de fraude électorale.
Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui disent... En général, j'écoutais les reportages de gens qui étaient là-bas, des observateurs internationaux, et tous disaient « Oui, ça s'est assez bien passé, sauf au Kurdistan, il y a eu quelques problèmes ici et là. » Sauf une délégation d'observateurs communistes français mmh. qui, elle, dit qu'elle a vu de la fraude massive, qu'elle a vu dans des camions à ordures, qu'elle a vu plein de bulletins de vote, et elle dit qu'elle est menacée, qu'elle a des problèmes pour sortir de son hôtel. L'ambassadeur français, semble-t-il, a demandé la protection des autorités turques pour cette délégation, mais sinon, tout le monde dit oui, ce sont des élections qui se sont passées relativement bien en termes, si tu veux, de votation, mais pas en termes de campagne, parce qu'il faut rappeler qu'Erdogan contrôle à peu près 100% des médias. Oui. Partout, les affiches dans les rues n'étaient que des affiches d'Erdogan mmh. et de ses propres candidats. Et surtout, il a fait mettre en prison tous ses critiques, tous ses opposants, potentiels ou réels.
Ça va bien gagner dans ce temps-là.
Ben, tu sais, c'est un peu facile. Et d'ailleurs, là-dessus, exactement, tu sais, et d'ailleurs, là-dessus...
Il n'est pas allé chercher plus que 53%.
C'est peut-être un peu étonnant, en fait. Federica Mogherini, qui est la responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, qui a dit que les élections n'avaient pas été équitables. Et je pense qu'elle a raison, ouais. c'est pas équitable. Évidemment, il a été félicité par Poutine, par Xi Jinping, etc. Mais c'est des gros problèmes en vue hein, pour la Turquie. Je t'en mentionne quatre. Il y a des problèmes pour les Turcs, parce qu'il faut savoir qu'Erdogan, c'est un islamiste ouais. De petits pas. Tu sais, en ce moment, on est en train de remplacer les écoles publiques par des écoles islamistes mmh. en Turquie. Alors, les gens qui pensent qu'il n'est pas islamiste, là, non, il est très islamiste, ce gars-là. Pour les Kurdes, on a très peur que les Kurdes subissent un génocide ou puissent subir un génocide, comme les Arméniens en ont subi un. Les Européens vont avoir un problème. Ils vont se retrouver avec une puissance islamiste sur les bords de la Méditerranée. Et puis, les membres de l'OTAN, en général, ont un problème, parce que Erdogan, il veut reconstruire l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, ouais. il a demandé aux femmes de faire des enfants. Mais quand tu demandes aux femmes d'un pays de faire des enfants, puis surtout que c'est un pays qui est déjà très peuplé, plus de 80 millions d'habitants, puis qui manque d'eau, il manque de ressources, etc., ben c'est parce que tu as des intentions
peut-être,
cachées
oui,
souvent.
D'aller chercher les ressources ailleurs.
Oui, exactement. Ouais. Ouais. Donc, on va avoir bien du plaisir avec la Turquie dans les années qui viennent.
Monsieur Tassé, merci beaucoup, qui est politologue, bien sûr, spécialiste de la Chine et de l'Asie, chargé de cours à l'Université de Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal, et bien sûr, chez nous, on se parle demain.
Salut.
Salut.